France Musique. Les grands entretiens. Lionel Esparza.
Je suis Olivier Beaumont, claveciniste. Je suis né le 15 août 1960 à Saint-Dié dans les Vosges.
Olivier Beaumont, on arrive aux années 90, vous avez 40 ans, c'est le moment où vous pourriez peut-être fonder un ensemble. Ce que vous ne faites pas, c'est volontaire ou ça ne vous correspond pas?
Les deux, c'est volontaire et ça ne me correspond pas. Je pense que les qualités qu'il faut pour jouer seul ne sont pas les mêmes que celles qu'il faut pour insuffler du dynamisme à un ensemble. Et finalement, je n'ai jamais voulu être claveciniste dans un ensemble parce que, encore une fois, c'est... Je me retrouvais un peu dans l'idée d'une cour de récréation. Je voulais pas jouer avec mes petits camarades quand j'étais enfant. C'est une chose de l'enfance sans doute, mais je me sens pas très bien avec trop de monde autour de moi, très clairement. Et donc, je pense pour un ensemble, d'abord, il y a beaucoup d'ensembles. C'est un peu presque inhérent à beaucoup de clavecinistes de créer un ensemble. Je voyais pas ce que, très honnêtement et très modestement, je voyais pas ce que je pouvais apporter de plus sur un plan du répertoire, sur la conception d'un répertoire précis, en créant même un ensemble. Il y a beaucoup d'ensembles formidables en musique baroque. Quelquefois, d'ailleurs, avec des musiciens qui sont un peu trop dans plusieurs ensembles différentes pour des raisons évidentes de gagner sa vie, tout simplement, mais qui fait qu'on a quelquefois des sons qui devraient un peu trop se ressembler alors qu'ils ne sont pas censés se ressembler. Donc ça, c'est un peu l'écueil, mais la vie du musicien peut provoquer ce genre de choses. Et vraiment, honnêtement, j'avais l'impression que je me sentais mieux et j'avais plus à dire, modestement, mais je pensais que j'avais plus à dire en faisant des récitals ou alors des ensembles de musique de chambre, mais avec vraiment des petits groupes avec lesquels je me sentais bien des amis, effectivement. Je ne me vois pas jouer avec quelqu'un qui n'est pas un ami. On a tous dans son activité musicale des moments où vous rencontrez quelqu'un à l'étranger, vous faites le concert et donc chacun fait le chemin pour se rencontrer musicalement. Mais ce n'est pas quelque chose qui me passionne. J'aime mieux avoir une sorte de fidélité artistique et jouer avec des gens que j'aime bien et qui m'aiment bien.
Vous ne créez pas d'ensemble, mais vous allez enseigner, Olivier. Enfin, vous avez déjà commencé à enseigner avant. Là, quand même, vous rentrez en 2001 au Conservatoire de Paris. Vous prenez la classe de clavecin. Avant de parler de ce que vous allez y faire, je voulais peut-être qu'on parle de l'histoire de cette classe, parce que c'est quand même, là encore, une épaisseur historique, l'histoire même de la classe du clavecin du Conservatoire.
Oui, absolument. Je suis très intéressé par l'histoire de l'institution, donc vénérable institution créée en 1795, au moment de la Convention. Et l'histoire de la classe du clavecin est complètement chaotique, du 18e au 21e siècle. Mais c'est exactement la situation du clavecin en France aussi. C'est-à-dire que on ne sait pas ce qu'il y avait exactement à la création. Apparemment, il y avait 6 ou 7 professeurs dits de clavecin en 95, mais de quoi parle-t-on? Il y avait à la fois des gens qui étaient un peu dans l'école royale de chant avant, ou des gens qui étaient déjà un peu âgés, donc on peut imaginer qu'ils aient effectivement enseigné le clavecin. Et puis des gens beaucoup plus modernes, comme la comtesse de Montgeroux, par exemple, très très bonne compositrice et très grande pianiste, qui à l'évidence a plutôt enseigné le piano. Mais en 95, on se dit, on a un peu trop dit, rapidement, oui, bien sûr, c'était des classes de piano et le clavecin, c'était un thème générique. On sait qu'on a un des Tasquins, donc un des descendants de la famille Tasquin, qui en 97 vient dans une salle de cours au conservatoire et qui change tous les becs d'un clavecin. Donc c'est bien qu'on s'en servait. La vieille histoire qui a voulu qu'on a brûlé des clavecins sous la Restauration, qui est vraie d'ailleurs, mais c'était pas des clavecins en état de marche, c'était des caisses de clavecins qui étaient complètement hors d'usage, qu'on a effectivement brûlées pour faire du bois de chauffage. L'histoire est connue, mais d'abord c'est plus tard. Donc on a quand même, à mon avis, une sorte de double activité pour le clavecin. Par exemple, il y avait ce Yassine Jadin, compositeur, qui a apparemment enseigné le clavecin au conservatoire. Et il y a un prix de clavecin en 97. Et c'était le moment où on offrait des prix, des véritables prix aux personnes. Et il y a une petite Rose Dumais de Versailles qui obtient son prix de clavecin en 97. Et comme prix, elle a un piano. Elle reçoit un piano. Donc c'est toute l'ambiguïté de la création des classes de clavecin au départ. Il y a une véritable classe créée par Marcel Delacour, je pense en 1955 de mémoire. Et ensuite, il y a eu jusqu'en 1967, chez qui Blandine Verlet, par exemple, a eu son prix. Il y a eu ensuite Robert Véron-Lacroix, donc de 1967 à 88. Ensuite, Kenneth Gilbert en 88, qui a fait vraiment beaucoup changer l'orientation du clavecin. Un peu comme on a eu aussi Michel Chapuis en 82-83, qui a fait aussi beaucoup changer l'instrument de l'orgue au conservatoire. Jusqu'en 95, ensuite Christophe Rousset, et puis moi à partir de 2001. Donc il n'y a pas tant de professeurs de clavecin que ça par rapport à la classe d'or, par exemple, qui a été ininterrompue. Mais c'est intéressant de voir quelqu'un comme Louis Diemer, par exemple, au début, à la fin du 19e siècle, qui était professeur de piano, chez qui beaucoup de pianistes ont eu leur prix. Mais en même temps, il jouait beaucoup de clavecin. Donc je ne peux pas imaginer qu'à ses élèves pianistes, il n'ait pas montré à un moment ou à un autre des instruments. Donc c'est l'histoire est très très chaotique du clavecin, mais très comme une espèce de petit miroir de ce qu'était le clavecin de ces années-là jusqu'à nos jours.
Donc, quand vous prenez cette classe, vous venez de le dire, ça a été la classe de votre maître, Kenneth Gilbert.
Exactement.
Quelque chose d'assez émouvant aussi dans cette transmission-là.
Oui, bien sûr, parce que c'était... D'abord, j'étais très heureux, je lui parlais beaucoup, beaucoup des cours que je donnais. C'était comme une sorte de référent un peu pour moi, comme il avait connu cette classe. Il a d'ailleurs commandé plusieurs instruments très intéressants dans la classe qui n'étaient pas encore au conservatoire. Et donc, oui, c'est une grande aventure pour moi. Ça fait donc la 20e année maintenant que je suis au conservatoire. C'est d'abord un grand honneur parce qu'encore une fois, l'institution est prestigieuse. Le conservatoire, je dis toujours ça, c'est le passage à l'autonomie, je trouve. C'est-à-dire que c'est ce que je dis aux étudiants quand ils rentrent, qui rentrent maintenant en licence ou en master, en équivalent licence, comme on dit au conservatoire. Ils sont par définition pas autonomes. Mais quand ils sortent, ils sont censés être collègues d'un tel, une telle, une telle et un tel. C'est ça, je trouve, l'important, c'est de le meilleur cadeau que puisse faire un étudiant, c'est de le rendre libre, justement. C'est ça que j'enseigne. Et les étudiants, je pense, le succès de la classe, sans prétention, et aussi le fait que les étudiants sentent ça. Ils sentent bien que je ne vais pas les formater, que je ne vais pas leur imposer quelque chose, mais qu'en vrai, je vais plutôt essayer de les révéler à eux-mêmes ce qu'ils peuvent donner. Donc, c'est ce qui me fascine, ce qui m'intéresse dans l'enseignement, c'est ça, justement. Je trouve qu'il n'y a pas de plus beau cadeau que de se rendre compte qu'un étudiant est complètement libre après de faire ce qu'il a envie de faire. On me dit aussi, souvent après les prix, ce que je prends aussi pour un compliment, c'est que on a l'impression que c'est pas toujours la même classe, que les élèves sont pas formatés, qu'ils jouent très différemment, et ce que je prends encore une fois pour un grand compliment.
En même temps, il y a des élèves parfois, enfin des étudiants, qui réclament un maître. Est-ce que de nouvelle génération vous en rencontrez de temps en temps, qui ont besoin de quelqu'un très fort, qui en quelque sorte va les saisir et les mettre à sa main?
Oui, mais le maître est pas forcément, le maître est pas forcément un gourou et pas forcément, n'a pas forcément une emprise. On peut très bien être un maître, je dirais, sans forcément avoir un côté très appuyé de la chose. Je me surprends toujours quand j'entends après des disques d'anciens élèves, je me dis, tiens, à la visiblement, j'ai pas parlé dans le vide. Donc, on entend souvent des choses comme ça. Mais je crois beaucoup à cette démarche où justement, on va plutôt ce qu'avait fait Kenneth très bien, je trouve, c'est de juste marquer les gens, mais sans, presque sans en avoir l'air. Mm-hmm. Parce que justement, on a aussi l'impression qu'on a passé l'époque où les gens avaient un seul maître, comme ça, au conservatoire, au 19e siècle. Il n'était pas question d'un stage d'été, ça n'existait pas déjà, et puis il fallait même presque toute sa vie être avoir un seul référent, ce qui, Dieu merci, est impossible maintenant. Et donc, ce qui m'a intéressé, moi, plutôt, c'est on peut ne pas vampiriser, ne pas mettre trop d'emprise sur les gens et les influencer beaucoup. Ce n'est pas du tout incompatible. Mais ce qui m'a fasciné aussi, parce qu'encore une fois, ça veut dire sur le baroque, c'est que tous ont eu du travail, après pratiquement tous. Donc, ça veut dire beaucoup sur le milieu baroque, sur lequel on est souvent dans les récriminations et les plaintes, quelquefois à juste titre, mais il y a quand même une demande réellement de jeunes musiciens, et ça, c'est quand même formidable.
France Musique, les grands entretiens d'Olivier Beaumont.
Le rapport avec les jeunes musiciens est dur après, parce que la carrière, on sait, c'est parfois un peu compliqué. Il y a une sorte de demande du milieu, enfin, c'est très général d'ailleurs, du milieu du disque, du concert, pour les jeunes qui arrivent. Et puis, qu'est-ce que ça devient après ?
C'est exactement la question, c'est ce qui me soucie, moi, beaucoup, et dont je parle d'ailleurs beaucoup avec les étudiants. Je parle beaucoup du phénomène de la carrière avec eux, parce qu'on n'en parle pas assez dans les conservatoires. Qu'est-ce que c'est que de signer un contrat ? Qu'est-ce que c'est d'arriver à l'heure à une répétition ? C'est tout bête, mais malheureusement, quelquefois, il faut dire les choses un peu précisément. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de jeunisme dans la vie musicale en général, mais aussi dans le baroque, où effectivement, il y a des jeunes qui sortent du conservatoire qui sont engagés très vite par des ensembles baroques prestigieux pendant 2 ans. Ils sont très contents, donc ils ont une sorte d'illusion, enfin l'impression que la carrière démarre bien, tout va très bien, sauf que 2 ou 3 ans après, on essaye d'autres personnes qui sortent, vous voyez, ou d'autres conservatoires, de Bâle ou peu importe d'où, et du coup, le problème c'est pas juste après la sortie des conservatoires en général supérieurs, mais que deviennent les gens 5 ou 10 ans après. Et là, quelquefois, il peut y avoir une très grande cruauté. On pense que la vie musicale fait beaucoup pour les jeunes, que c'est formidable, on les engage beaucoup. Mais il y a une cruauté de la période juste un peu après, où des gens se retrouvent à faire beaucoup moins d'un coup, parce qu'il y a d'autres jeunes qui arrivent. Donc, ayons un peu cette réflexion, tous, aussi bien les enseignants, mais aussi les directeurs de festivals, les directeurs de maisons de disques. Comment est-ce qu'on accompagne aussi des gens de façon un peu plus pérenne? Et ça, je trouve que c'est très important. Chaque génération a ses difficultés. Je pense que les générations du Guette, Dreyfus, Gustave Léonard, toute Canet Gibert, il y avait moins de monde, mais il n'y avait pas de clavecin du tout. Le simple fait d'organiser un récital de clavecin quelque part, même si l'organisateur de concert avait envie de le faire, il n'y a pas d'instrument. Donc il y avait d'autres difficultés. Moi, j'ai commencé ma carrière avec un peu l'avènement du CD, avec donc beaucoup de musiciens de ma génération qui ont fait des grosses carrières. Maintenant, il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup plus de possibilités aussi. Donc, chaque génération a ses difficultés. Mais ce qui m'embête le plus, je dirais, c'est cette façon de, quelque part, d'abandonner un peu des musiciens qui ont à peine 20, 26 ans, qui font moins de choses, parce que justement, on demande d'autres personnes. Donc, il faut être un peu vigilant à ça. Et surtout, il faut aussi préparer les jeunes musiciens à ça, qu'une carrière, c'est long. On ne prépare pas une carrière, on ne fait pas une carrière de 2 ans. On part pour 40 ans d'activité musicale, de recherche avec son instrument. Donc, il faut aussi voir sur le long terme et pas juste voir immédiatement. Que dans 2 mois, on n'a pas de choses ou tout ça.
Thank you.
L'année même, Olivier Beaumont, vous prenez la classe au Conservatoire de Paris, un autre événement, le Neveu de Rameau. Là, c'est un spectacle en 2001 aussi, je crois, pour la première. Un spectacle qui va mêler ce dont vous avez déjà parlé dans une émission antérieure, c'est-à-dire le rapport avec les comédiens et le rapport avec le texte aussi, avec les textes passés, que ce soit le texte musical ou le texte littéraire.
Alors ce spectacle, on va d'ailleurs bientôt reprendre ce spectacle à Paris pour nos 20 ans, justement. C'est un succès un peu improbable, je dirais, parce que deux comédiens, un dialogue de Diderot et du Clave Saint-Saul, on ne peut pas dire que ça devrait vraiment faire forcément courir les foules. Or, il se trouve qu'on a fait plusieurs reprises de ce spectacle, on a fait plus de 500 fois maintenant, et il y a quelque chose qui fonctionne toujours bien. D'abord, s'il y a une très belle entente, le Neveu d'Armeau, c'est Nicolas Vaude, c'est un peu le rôle de sa vie, je pense qu'il est vraiment exceptionnel dans le rôle. On a fait pendant la moitié d'une dizaine d'années avec Nicolas Marié, qui vient d'avoir un César il n'y a pas longtemps, très magnifique comédien, avec qui on a fait l'adaptation d'ailleurs du texte, avec Nicolas, les deux Nicolas et moi. Et puis, Nicolas Marié ayant arrêté, on a fait maintenant avec Gabriel Ledos, un comédien formidable qui dégage quelque chose de philosophique comme ça, qui convient très bien avec le moi du dialogue, lui et moi. Et donc, moi j'ai toujours été fasciné par ce texte, au départ par la fameuse leçon de Clavecin qui est très célèbre, où il doit enseigner à quelqu'un le Clavecin alors qu'il ne sait rien du tout, et donc il y a une leçon qui est à mourir de rire. C'est un beau sujet, je trouve, pour le département de pédagogie comme dissertation, d'enseigner quelque chose qu'on ne connaît absolument pas, et évidemment le texte est à mourir de rire. Donc on a vraiment construit le spectacle progressivement. On l'a fait une première fois en lecture au Festival de Fontainebleau d'Île-de-France. On l'a fait ensuite beaucoup dans un atelier de clavecin chez Reinhard von Nagel. Et puis, on l'a fait donc au théâtre du Rhin-Lang, qui est un lieu ramiste d'ailleurs, parce que le théâtre date de la Troisième République, mais c'était l'emplacement de l'hôtel particulier de la Pouplinière au 18e, donc grand protecteur de Rameau. Et on sait donc que sur l'emplacement de ce théâtre, Rameau a sans doute dirigé et en tout cas est venu plusieurs fois. Donc moi, j'ai fait un travail musical de compositeur qui était proche de Diderot. Et puis, j'ai composé une petite pièce pour le début et la fin, en me disant qu'après tout, on a des pièces de clavecin qui sont perdues de Jean-François Rameau. Donc on connaît tout, c'est curieux parce que on a l'intitulé des pièces, c'était sorti dans le Mercure de France, dans les annonces du Mercure de France, et donc on a toutes les pièces. Une pièce s'appelait Les Trois Rameaux par exemple, qui était lui, son père et son oncle, mais peut-être dans un grenier à Dijon on trouvera un exemplaire de ce volume, c'était généralement édité à peu d'exemplaires. Mais donc voilà, donc j'ai fait une espèce de petit pastiche de Jean-François Rameau qui joue au début et à la fin du spectacle. Et là aussi je dois avoir un petit côté comédien rentré aussi, parce que c'est très agréable, on n'a jamais ça en musique, d'avoir un rythme aussi comme l'enregistrement où on va tous les soirs jouer. Donc on se met, on sait qu'on part à une heure précise, on est dans sa loge, on change. Il y a tout un côté extrêmement agréable que moi j'aime beaucoup, une rythmique qui s'installe effectivement, qu'ont les comédiens, qu'on a nous beaucoup moins, parce qu'on va faire un concert quelque part et puis on revient. Donc c'est pas du tout pareil. Et l'entente entre nous trois et plus le metteur en scène Jean-Pierre Rumeau, qui a fait ce travail depuis 20 ans, qui est un metteur en scène qui renouvelle toujours le travail pour les comédiens, vraiment formidable. Donc j'y sors beaucoup d'amitié, parce qu'on continue à jamais être lassé de ce spectacle, on continue à rire beaucoup sur scène, cantant de petits clins d'œil, etc. Et c'est vrai qu'on a fait même, on a été même jusqu'à Ankara faire ce spectacle sous-titré en turc, il y a une dizaine d'années, donc on a joué ce spectacle vraiment beaucoup, beaucoup. Et ça reste, on est tous les trois très pris par nos activités, et on est toujours contents de se retrouver. Donc il y a une chose un peu miraculeuse qui se passe avec ce spectacle, qui fait que j'y suis très attaché.
Parler en fait de ces moments, en fait de création d'une routine pendant une période donnée.
Une rythmique,
rythmique. Le bon sens de la routine éventuellement. Tout d'un coup on a quelque chose qui est régulier, comme si la vie de musicien justement était en elle-même tellement irrégulière, tellement nomade, qu'on aura besoin à un certain moment de se poser, d'avoir quelque chose d'un peu plus encadré.
Oui, je pense que c'est vrai, et puis les jours qui défilent ont leur rythmique. Moi je suis très sensible à la rythmique dans la vie courante, le rythme, pas seulement en musique, mais l'ancrage du rythme dans les choses très concrètes effectivement. Et vous avez raison qu'on a dans la période de musicien des périodes très différentes, périodes avec beaucoup, beaucoup d'activités difficiles, parce qu'il y a beaucoup d'activités, des périodes d'ombre et de lumière, comme tout le monde connaît sur une longue carrière. Et vous avez raison, peut-être que cette irrégularité fait qu'on a envie de temps en temps, vous avez tout à fait raison, de quelque chose de plus rythmique. Mais moi, j'aime beaucoup trouver, j'essaie d'enseigner aussi comme ça, j'aime trouver des choses extrêmement concrètes dans la vie courante qui servent pour la musique. Je prends un exemple, par exemple, la forme rondo. Vous savez, je cite toujours cet exemple-là, qui est un genre que j'aime beaucoup, que Couperin a beaucoup utilisé, donc c'est l'alternance de refrain et de couplet. Donc le refrain, c'est la musique qu'on connaît, puisqu'elle revient tout le temps, et puis le couplet, c'est de la musique nouvelle qu'on n'a pas encore entendue. Donc c'est ce mélange de connu et d'inconnu que je trouve fascinant, et je cite un exemple toujours concret, aux gens à qui je parle du rondo, quand vous aimez bien être chez vous, vous êtes chez vous, vous avez votre environnement à vous, vous avez votre couette, vous êtes très bien, vous êtes très excité de partir ailleurs parce que vous allez découvrir une nouvelle ville, rencontrer de nouvelles personnes, mais il y a le plaisir de partir, découvrir des gens, mais il y a le plaisir de revenir aussi. Qui n'est pas heureux de rentrer chez soi après un voyage pour retrouver ses habitudes, etc. Donc là, c'est un exemple que je trouve important de justement d'essayer de trouver du concret dans les formes musicales. Et le rondo, pour moi, c'est Heureux qui communie, ça fait un beau voyage que tout le monde connaît. Mais ce mélange, cette attirance vers l'inconnu qu'on a tous, parce qu'il y a une ivresse de découvrir une nouvelle ville ou des nouvelles personnes, mais le bonheur aussi de revenir. Et ça, typiquement, c'est une chose que j'essaie de mettre en musique, c'est trouver des choses extrêmement concrètes, matérielles, très simple, mais qui aide beaucoup pour jouer une certaine forme musicale.
Un disque d'Aquin qui nous découvre, enfin qui découvre une partie du public d'alors, en tout cas Olivier Beaumont, organiste. C'est venu quand l'orgue dans votre parcours?
L'orgue, c'est un instrument que je me considère pas du tout comme un organiste, mais j'adore l'orgue, j'en jouerai toute la journée. J'ai fait de l'orgue un peu progressivement comme ça. Je me suis intéressé aussi par le biais de Couperin, parce que j'ai eu envie de jouer les messes d'orgue, grand chef-d'œuvre écrit dans sa jeunesse. Donc clairement, je connais beaucoup mieux l'orgue français que d'autres répertoires. Et donc là aussi, je pense que l'orgue est venu par l'intérêt pour le répertoire français. J'aime tellement ce répertoire que j'ai eu envie. C'est impossible de jouer la musique française sans aborder un mot ou un autre l'orgue, parce que tout simplement, ils étaient tous organistes et clavecinistes, à l'exception notable de Dufy. Mais sinon, ils étaient tous organisés avec la finesse. Donc, l'envie était presque naturelle de faire ça. J'ai fait plusieurs disques consacrés à ce qu'on appelle petits maîtres au XVIIIe siècle en France, mais qui ont cette chose magnifique de connaître tellement bien l'instrument qu'ils savent faire sonner une clavecin comme personne. L'école française de clavecin, c'est l'école de la du beau toucher, l'école de la résonance. C'est-à-dire que l'école italienne, c'est autre chose, c'est la liberté. Frescobaldi, il a inventé la liberté au clavier, ce qui est une chose énorme. L'école allemande, tout ce qu'on connaît de puissant d'école allemande. Mais l'école française a réussi à faire comment je fais avec des cordes pincées et cette caisse en bois, comment j'arrive à perpétuer le son de l'instrument, comment je fais résonner l'instrument. Et donc, c'est pour ça que c'est une école merveilleuse, je trouve merveilleuse, l'école du XVIIIe siècle français, parce que justement, c'est l'école de la résonance et la façon d'utiliser les registres magnifiques de l'instrument, le grave de l'instrument qui sonne tellement bien. Et il y a une sorte de persistance de l'attention portée au son et de la beauté sonore qu'on trouve après jusqu'au XXe siècle, des gens comme Debussy, des gens comme ça. Donc j'aime cette, comme la patience rétinienne un peu, il y a quelque chose d'une persistance du son français qui, moi, me touche beaucoup. Et donc, effectivement, même chez des petits maîtres comme d'Aquin, d'Andrieux, des gens comme ça, que je trouve très touchants, dont le talent c'est pas des grands génies, mais qui sont des bons artisans de la musique et qui connaissent l'instrument comme personne et qui arrivent à faire sonner un clavecin de façon magnifique, même des petites pièces.
Le coucou de Louis-Claude d'Aquin était joué par Olivier Beaumont au clavecin. Merci à Maë et Christine Ferdinand, Lionel Quentin, Sébastien Huel et Nicolas de Pagraf. Vous retrouvez les grands entretiens sur le site francemusique.fr et sur l'application Radio France. À demain pour notre dernier épisode.
À réécouter sur francemusique.fr.